Bonjour Victoria, bonjour à tous les auditeurs francophiles et francophones, c'est Alexis Gagnon au micro. Nous allons lancer cette nouvelle édition du débrief à l'antenne du 107.9 FM, édition des 30 et 31 mai. Je suis avec vous au cours de la prochaine heure pour effectuer avec vous la revue des actualités mondiales, nationales et provinciales. Bonne émission à tous. Merci d'écouter l'émission Le Débrief à l'antenne de votre radio communautaire francophone locale. Voici votre revue de presse internationale pour le 30 et le 31 mai. On commence dans les colonnes du média Ouest-France à l'adresse westfrance.fr. Panama, décès de l'ancien dictateur Antonio Noriega. L'ancien dictateur panaméen Manuel Noriega, qui était hospitalisé depuis mars dernier à la suite d'une tumeur cérébrale, est décédé dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 83 ans. Manuel Noriega avait été opéré le 7 mars d'une tumeur bénigne au cerveau dans un hôpital de Panama City, mais a souffert par la suite d'une hémorragie cérébrale. Opéré à nouveau, il était dans un état critique. Afin d'être opéré, l'ancien dictateur était sorti temporairement le 28 janvier de la prison El Renacer, où il purgeait une peine pour la disparition d'opposants politiques sous son régime entre 1983 et 1989. Sa famille avait demandé à plusieurs reprises en vain une assignation à résidence permanente de l'ancien dictateur, qui a connu plusieurs hémorragies cérébrales, des complications pulmonaires, un cancer de la prostate et a souffert de dépression. Homme fort du Panama de 1983 à 1989, le général Noriega était ensuite tombé en disgrâce, renversé par les États-Unis, puis lourdement condamné pour trafic de drogue. Il a passé plus de deux décennies derrière les barreaux aux États-Unis pour des accusations de trafic de drogue. Il a ensuite été emprisonné 2 ans en France pour blanchiment d'argent, avant d'être extradé vers le Panama en décembre 2011. Dans les pages du journal Le Monde maintenant, Donald Trump accuse l'Allemagne d'être très mauvaise pour les États-Unis sur le plan commercial. Le président américain s'en est pris mardi aux excédents commerciaux de l'Allemagne. Dimanche, Angela Merkel avait estimé que les Européens ne pouvaient plus totalement compter sur les États-Unis, rappelle Le Monde. Le président américain donc a accusé dans un tweet l'Allemagne d'être très mauvaise pour les États-Unis sur le plan des relations commerciales et militaires. Pratiquement en même temps, à Berlin, la chancelière allemande Angela Merkel a jugé extrêmement important que l'Europe devienne un acteur et s'engage à l'international, notamment en raison de l'évolution des États-Unis sous Donald Trump. Dimanche, elle avait jugé, à la suite d'un sommet du G7 très difficile, que les Européens ne pouvaient plus totalement compter sur les États-Unis de Donald Trump. La chancelière allemande, qui recevait mardi le premier ministre indien Narendra Modi, a quant à elle affirmé « La relation transatlantique est d'une importance primordiale. Ce que j'ai simplement fait, c'est de dire que compte tenu de la situation actuelle, il y a encore plus de raisons pour lesquelles nous devons, en Europe, prendre notre destin en main. » Selon Angela Merkel, écrit Le Monde dans cet article, il est nécessaire pour les Européens d'avoir une politique étrangère commune pour, par exemple, pousser à la résolution du conflit en Libye. Sur certaines questions, a-t-elle dit, nous ne sommes pas aussi bons que nous devrions l'être, la question de la politique migratoire notamment, a-t-elle ajouté. Toujours à propos d'Angela Merkel et des récentes déclarations qu'elle a faites, on a un papier dans le portail indépendant Mediapart. Merkel tentée par une plus forte intégration européenne en affirmant que l'Europe ne peut plus compter sur les États-Unis comme auparavant. Angela Merkel prend acte de la nouvelle politique de Donald Trump et prépare son opinion à une politique plus européenne, notamment dans le domaine de la défense et sur la réforme de la zone euro. C'est par le journaliste Romaric Godin dans Mediapart. Après un sommet de l'OTAN et un autre du G7 apparemment très difficile pour Angela Merkel, cette dernière a pris acte de l'impossibilité pour l'Europe de compter désormais sur la vieille alliance avec les États-Unis. Dimanche, de retour en Allemagne, à Munich, dans une réunion du parti bavarois CSU, elle a estimé que les temps où nous pouvions entièrement compter sur les autres sont en partie derrière nous. C'est ce que j'ai ressenti au cours des derniers jours, selon sa déclaration. Et de conclure, nous, Européens, devons prendre notre destin en main. Une déclaration qui a été justement perçu en Allemagne comme aux États-Unis comme un changement d'air dans les relations transatlantiques. L'importance de ces déclarations, rapporte Mediapart, est soulignée par une analyse du Washington Post qui évoque un énorme changement dans la rhétorique politique. À juste titre, l'article souligne combien a été essentielle la relation germano-états-unienne dans l'histoire de l'OTAN. Un des principaux objectifs de l'OTAN était d'intégrer l'Allemagne dans un cadre international qui l'empêche de devenir une menace pour la paix européenne, rappelle le Washington Post, pour qui Angela Merkel suggère que les Américains ne sont pas réellement dans le jeu et que, par conséquent, l'Allemagne et l'Europe sont plus susceptibles de tenir un rôle beaucoup plus substantiel et indépendant que celui qu'ils ont tenu depuis 70 ans, soit depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Autrement dit, la chancelière allemande, pourtant longtemps très attachée à la relation spéciale avec les États-Unis, semble prendre acte du changement de doctrine à Washington. Citant un ancien envoyé des États-Unis à l'OTAN, Ivo Dalder, le New York Times confirme que cela ressemble à la fin d'une époque où les États-Unis dirigeaient et l'Europe suivait. Donc cet article paraît dans Mediapart sous la plume du journaliste Romaric Godin. Retour dans le journal Le Monde, le directeur de la communication de la Maison-Blanche démissionne. Le départ de Michael Dubke pourrait marquer, selon la presse américaine, le début d'un remaniement des équipes au sein de l'administration Trump. La conseillère de Donald Trump, Kellyanne Conway, a annoncé mardi 30 mai la démission du directeur de la communication de la Maison-Blanche, Michael Dubke. Kellyanne Conway a précisé à l'agence Associated Press que M. Dubke avait remis sa décision avant même que le président américain commence son voyage international qui l'a mené en Arabie Saoudite, en Israël, puis en Belgique pour un sommet de l'OTAN et enfin au sommet du G7 en Italie. Dans un message à ses collègues, précise le New York Times, Michael Dubke justifie les raisons de son départ comme personnelles, mais cela a été un grand honneur de servir le président Trump, a-t-il dit dans ce communiqué. Et Michael Dubke précise, cet article du Monde assurait son poste depuis seulement 3 mois. Son départ pourrait marquer, selon la presse américaine, le début d'un remaniement des équipes au sein de la Maison-Blanche. On se déplace en Extrême-Orient. Le déploiement secret de systèmes TAD scandalise le président sud-américain. Donc, rappelons que les dispositifs TAD sont en fait des systèmes antimissiles visant à contrer les attaques nord-coréennes. C'est dans le fil de l'agence Reuters. Le président sud-coréen Moon Jae-in a fait savoir mardi qu'il avait ordonné une enquête sur le déploiement non signalé à son administration de 4 batteries antimissiles TAD de conception américaine. Le porte-parole sud-coréen a précisé que le nouveau président, investi le 10 mai, avait été scandalisé en découvrant que ces 4 batteries additionnelles, en plus des 2 autres déployées avant son élection, avaient été installées sans que lui-même ni la population n'en soient informés. Négocié entre l'administration précédente et les États-Unis, le déploiement de ces missiles antimissiles TAD est censé répondre à la menace balistique nord-coréenne. Leur installation en mars dans la région de Sinju, dans le sud-ouest de la Corée du Sud, a provoqué l'inquiétude de Pékin, qui redoute que les systèmes de radar dont sont équipés ces systèmes d'interception de missiles en haute altitude ne servent aussi à surveiller les mouvements de troupes en Chine ou encore les propres systèmes de défense de la Chine. Au cours de la campagne électorale, rappelle cet article de Reuters, Moon Jae-in s'est prononcé pour un examen parlementaire du déploiement du système Terminal High Altitude Area Defense, TAD. Aucun commentaire, précise l'agence Reuters, n'a pu être obtenu auprès de l'état-major des forces américaines en Corée du Sud ou de l'armée sud-coréenne. Je vous propose maintenant un article qui paraît dans le blog Orient 21, un blog qui se penche en particulier sur tout ce qui concerne le Moyen-Orient, la politique au Moyen-Orient. Et on trouve un article sur l'Inde qui est signé par Pierre Prier. Et ça s'intitule « L'Inde, un géant hésitant au Proche-Orient ». Le premier ministre Narendra Modi, arrivé au pouvoir en mai 2014, sera le premier chef de gouvernement indien à effectuer une visite en Israël, annoncée pour le 5 juillet 2017. Un géant hésitant et ambigu, tel apparaît l'Inde dans ses relations avec le Proche-Orient, peut-on lire dans cet article. Fort de ses 1,3 milliard d'habitants, promise à devenir le pays le plus peuplé de la planète, possédant l'arme nucléaire et une armée de plus d'un million d'hommes, le mastodonte du sous-continent pourrait logiquement jouer un rôle de médiateur dans le règlement des conflits au Moyen-Orient et dans le Golfe. D'autant plus que l'Inde se considère d'ores et déjà comme une grande puissance à l'égal des États-Unis, de la Russie ou de la Chine. Mais on ne voit pas ses représentants représentants aux tables des négociations sur le conflit israélo-palestinien ou encore aux tables de négociations sur la Syrie, ni à l'ONU, indique cet article d'Orient 21. Cette frilosité découle d'une prudence stratégique, ne se fâcher avec personne. En outre, une technostructure conservatrice au sein de la défense, de l'armée et des renseignements agit constamment pour freiner toute initiative comportant une prise de risque. Pour comprendre ce pragmatisme sans ambition, il faudrait d'abord cesser de regarder le monde avec des yeux occidentaux. Pour les Indiens, le Proche-Orient n'existe littéralement pas. C'est l'Europe qui l'a inventé, c'est l'Occident qui l'a vu et le voit toujours comme un espace de conquête et d'affrontement. L'Asie occidentale, ou le Proche-Orient, comme vous voulez, est donc vitale pour l'Inde, indique cet article. C'est de là que proviennent 60% de ses importations de pétrole et de gaz naturel. 7 millions de ses ressortissants y travaillent, dont 2,6 millions rien qu'aux Émirats arabes unis. Ces expatriés envoient près de 36 milliards de dollars par an à leurs familles restées en Inde. Sans parler des liens commerciaux très anciens, et voilà pourquoi, paradoxalement, le Proche et le Moyen-Orient sont pour l'Inde un non-sujet politique et chaque déclaration les concernant est soigneusement calibrée de telle façon qu'aucun des États de la région ne puisse prendre ombrage. Donc voilà, une analyse de la position de l'Inde, ce géant en ascension, dans le dossier du Moyen-Orient, donc des guerres au Moyen-Orient et de l'instabilité au Moyen-Orient. On nous indique que l'Inde adopte un pragmatisme prudent face au Moyen-Orient et à ce que l'Inde appelle en fait l'Asie occidentale. À lire sur le portail orient21.info et le 21, je le précise, est en chiffres romains. Au Brésil maintenant, une nouvelle dans le portail Bastamag à l'adresse bastamag.net nous apprend les dernières nouvelles au sujet de l'instabilité politique qui prévaut depuis quelques semaines. Ce 28 mai, peut-on lire, plus de 100 000 personnes se sont retrouvées sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro pour demander la démission du président intérimaire Michel Temer et de nouvelles élections directes. Le 24 mai, des manifestations similaires s'étaient déroulées du côté de Brasilia, la capitale, rassemblant quelques 150 000 personnes malgré une répression brutale qui a fait une cinquantaine de blessés. Le président Michel Temer a même édicté un décret spécial pour que l'armée se déploie pour protéger les ministères. Ce même jour, la police militaire brésilienne a tué 10 personnes dans l'état du Pará, au nord du Brésil, lors d'une opération d'expulsion des travailleurs sans terre. Ce drame rappelle le massacre d'Eldorado dos Carajás en 1996, quand 19 paysans sans terre ont été assassinés par la police lors d'une manifestation. Ces nouvelles manifestations, précise Bastamag, font suite aux révélations impliquant directement le président Temer, tentant d'acheter le silence de l'ancien député Eduardo Cunha, aujourd'hui en prison. Cette proximité avec l'ancien président de la Chambre des députés et acteur central de la destitution de Dilma Rousseff a rendu la position de Michel Temer et de son gouvernement intenable. Cet article mentionne aussi que des mouvements ne cessent de dénoncer l'action violente des forces de l'ordre brésiliennes envers les populations pauvres et noires et montre le lien entre la crise actuelle et la crise démocratique représentative. Et le lien qui existe également avec la violence systémique de l'État brésilien. Donc un article fascinant écrit par Glauber Cerezino dans le portail Bastamag à l'adresse bastamag.net. On revient dans les colonnes de Mediapart. Le coût écologique d'Internet est trop lourd. Il faut penser un Internet low-tech. Le combat pour une informatique émancipatrice échoue le plus souvent à expliquer les effroyables coûts écologiques et humains du numérique. Un Internet low-tech est nécessaire afin de nous émanciper des sphères technocratiques et industrielles. C'est une tribune publiée dans Mediapart par Philippe Tréguet. On apprend dans cet article qu'Internet représente plus de 7% de la consommation électrique mondiale, en croissance de 12% par an. Une simple recherche Google occasionne la même dépense énergétique que celle nécessaire à l'ébullition d'un litre d'eau. En France, l'infrastructure numérique consomme annuellement la production de 9 réacteurs nucléaires, soit 13% de l'électricité nationale. Dans le même temps, la sophistication croissante des machines rend nécessaire l'utilisation des métaux aux propriétés de plus en plus spécifiques et donc de plus en plus rares. Aux désastres environnementaux liés à l'extraction minière s'ajoute l'impossibilité de recycler ces métaux rares, utilisés le plus souvent de manière intriquée à des échelles nanométriques. De fait, moins de 25% de la masse d'un smartphone ou d'un ordinateur ultra-plat sont recyclables et environ 5% sont effectivement recyclés lorsque l'objet est orienté dans la bonne filière. Enfin, lorsque l'on porte son regard sur les modes d'assemblage ou de recyclage de l'informatique, il devient évident que les libertés numériques des 2,5 milliards d'utilisateurs d'Internet reposent sur une main-d'œuvre soumise à des conditions de travail proches de l'esclavage. Or, poursuit cette tribune parue dans Mediapart, en dépit des poncifs sur la responsabilité sociale des entreprises ou l'informatique verte, l'industrie semble enfermée dans une fuite en avant, non seulement irresponsable au plan écologique, mais également extrêmement préoccupante pour les droits et libertés. Qu'il s'agisse du big data ou des promesses mirobolantes de l'informatique quantique, la démultiplication des capacités de collecte, de stockage et de calcul s'accompagne nécessairement d'une spectaculaire aggravation de l'inégalité dans le contrôle des ressources informatiques entre, d'un côté, les grandes bureaucraties, publiques et privées, et la surveillance des communications des citoyens. Sans parler de la menace que font peser l'ubérisation et la robotisation de l'économie sur les droits sociaux. Alors, je rappelle le titre de cette tribune signée par Félix Traeger dans le portail Mediapart.fr. Le coût écologique d'Internet est trop lourd. Il faut penser un Internet low-tech. Et c'est sur cette actualité que se clôt la revue de presse internationale pour les 30 et 31 mai. Restez avec nous à l'antenne de votre radio communautaire francophone locale. L'émission Le Débrief se poursuit dans quelques secondes avec la revue de presse canadienne. À tout de suite. Merci d'être à l'écoute de l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info à l'antenne de votre fréquence communautaire francophone locale. Nous sommes dans l'édition des 30 et 31 mai et nous allons passer aux nouvelles canadiennes. Voici votre revue de presse nationale. Et on commence avec une nouvelle ontarienne aujourd'hui. L'Ontario haussera le salaire minimum à 15 $ de l'heure. C'est dans plusieurs médias. Je vous lis quelques lignes de l'article paraissant sur le portail de Radio-Canada. La première ministre de l'Ontario, Kathleen Wynne, a annoncé mardi que le salaire minimum grimperait à 15 $ de l'heure dans la province en janvier 2019. Il s'agira d'une hausse graduelle. Actuellement, le salaire est de 11 $40 de l'heure. En janvier 2018, il passera à 14 $ de l'heure et atteindra le niveau de 15 $ de l'heure en janvier 2019. Et par la suite, précise cet article de Radio-Canada, donc après janvier 2019, le salaire minimum en Ontario augmentera au même rythme que l'inflation. Les syndicats et les militants pour les travailleurs demandaient un salaire minimum horaire de 15 $ depuis plusieurs années, indique cet article. La Chambre de commerce de l'Ontario, toutefois, s'y opposait, soutenant que ça décourageait les investissements. D'ailleurs, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante a déclaré, suite à l'annonce de mardi matin, que les petites entreprises se voyaient punies au détriment des grands syndicats et que cette hausse du salaire minimum allait avoir comme résultat des pertes d'emplois. Les entreprises créent des emplois, pas les syndicats, selon le communiqué de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. La première ministre Kathleen Wynne a rétorqué que l'économie ontarienne est assez solide maintenant pour encaisser une hausse significative du salaire minimum. La première ministre a soutenu que les travailleurs au salaire minimum dépenseront de l'argent supplémentaire qu'ils recevront en vertu de cette augmentation et feront rouler l'économie selon ses termes. À l'heure actuelle, a-t-elle précisé, 10% des travailleurs ontariens gagnent le salaire minimum et 30% des employés dans la province touchent moins de 15 $ de l'heure. Donc voilà une bonne nouvelle pour les travailleurs en Ontario. On poursuit cette revue de presse nationale. Justin Trudeau maintient sa position sur l'expansion de Trans Mountain. C'est une nouvelle qui aurait pu se retrouver dans la revue de presse provinciale, donc la revue de presse britanno-colombienne. On va l'insérer dans la revue de presse nationale puisqu'il y a beaucoup de nouvelles provinciales sur l'élection, vous vous en doutez. Donc on va aborder cette nouvelle tout de suite. Le premier ministre Justin Trudeau maintient sa position sur l'expansion de l'oléoduc Trans Mountain malgré la coalition des néo-démocrates et des Verts de Colombie-Britannique qui veulent torpiller le projet de Kinder Morgan. Donc, Kinder Morgan, c'est la pétrolière qui veut tripler la capacité de son pipeline Trans Mountain. À l'occasion d'une conférence de presse conjointe avec le premier ministre italien Justin Trudeau, a réitéré que le feu vert accordé par Ottawa à Kinder Morgan était fondé sur des faits quant aux meilleurs intérêts des Canadiens. Des élections provinciales ne changent rien au bien fondé de ces faits, a-t-il soutenu. Et cet article de Radio-Canada, qui est en fait issu de la presse canadienne sous la plume de Joanna Smith, rappelle que les chefs des deux formations politiques menées par John Horgan et Andrew Weaver, donc les respectivement les néo-démocrates et les verts, ont indiqué hier lundi 29 mai, qu'ils s'étaient entendus pour former un gouvernement de coalition minoritaire. Donc les Verts et le NPD avaient déjà manifesté leur opposition à l'expansion du pipeline Trans Mountain qui vise, rappelle l'article, à tripler la capacité de cet oléoduc entre l'Alberta et le port de Burnaby. On enchaîne avec une nouvelle qui paraît dans les pages éditoriales du journal Le Devoir, toujours dans cette revue de presse nationale. La culture en danger, c'est le titre de ce papier signé par Brian Miles. L'exception culturelle survivra-t-elle à la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, ce qu'on appelle aussi par son acronyme anglophone le NAFTA? Donc l'exception culturelle existe actuellement dans le traité. Est-ce qu'elle survivra? C'est la question que pose Brian Miles. Cette question se pose avec la montée en puissance des géants de la Silicon Valley en Californie, auxquels aucun gouvernement nord-américain ne semble pouvoir tenir tête. La culture est dans l'angle mort du débat de la renégociation de l'ALENA. Les producteurs laitiers et l'industrie du bois d'œuvre, parmi les premiers alertés par les intentions hostiles du président américain Donald Trump, ont réussi à se mobiliser et à faire entendre leur voix. Et l'industrie culturelle, demande Brian Miles dans cet article, elle reste désorganisée, isolée et à court d'un porte-étendard capable de rallier les factions. Il faut dire que l'industrie du cinéma n'a pas les mêmes préoccupations que celle du livre, qui diffère à son tour du secteur de la télédiffusion et ainsi de suite. Le vaste monde culturel reste la somme de ces divisions, tant les intérêts et les enjeux y sont variés. L'industrie culturelle est une expression qui se conjugue à la singularité du pluriel. Le fil conducteur, poursuit Brian Miles, qui permettrait de fédérer les industries culturelles et de rallier le public à leur cause, est bien simple. Il s'agit d'un enjeu vital pour la survivance de la langue et de la culture française au Canada et en Amérique du Nord. Si le Canada et le Québec acceptent d'ouvrir leur marché sans restriction aux Apple et Netflix de ce monde, nous deviendrons, avant la fin de ce siècle, une culture traduite de l'américain. Même les créateurs anglophones, québécois ou canadiens souffriront de l'étiolement de la clause d'exception culturelle. La ministre du Patrimoine, Mélanie Joly, fonde beaucoup d'espoir sur la capacité des créateurs d'exporter leur contenu. Cette avenue ne sera accessible qu'à une minorité d'œuvres ou de contenus aux qualités universelles. Ce raisonnement néglige en outre les propriétés fondamentales des contenus locaux et nationaux. Ils servent d'abord de miroir, nous renvoyant l'image de ce que nous sommes, de ce que nous devenons à l'intérieur de ce mariage fusionnel entre langue et culture. Il ne s'agit pas de freiner l'innovation, pas plus que de pester comme un vil réactionnaire contre l'inévitable dématérialisation des produits culturels, mais de préserver la diversité des voix et des expressions culturelles, écrit Brian Miles dans cette tribune intitulée, je le rappelle, « La culture en danger » dans le cadre des renégociations de l'ALENA qui s'annonce imminente. C'est dans Le Devoir. Et on poursuit cette revue de presse nationale pour parler du nouveau chef du Parti conservateur du Canada, un visage d'unité pour le PCC et son nouveau chef. C'est dans les pages du journal La Presse, sous la plume de Joël Denis Bellavance. Le nouveau chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, a multiplié les gestes et les paroles hier, donc lundi 29 mai, pour assurer l'unité des troupes conservatrices, quelques 48 heures après avoir remporté une victoire à l'arraché aux dépens de Maxime Bernier, au Congrès national du Parti à Toronto, qui visait à élire un successeur à Stephen Harper. Après avoir lancé un appel à l'unité à son caucus devant les caméras et souligné les qualités de ses adversaires durant la course à la direction, Andrew Scheer a profité de sa première période des questions en Chambre des communes à Ottawa, en tant que chef de l'opposition officielle, pour critiquer le bilan économique du gouvernement libéral de Justin Trudeau. Andrew Scheer a par la suite donné à chacun de ses anciens rivaux ayant un siège aux communes l'occasion de se faire valoir en attaquant les politiques des libéraux. Les Maxime Bernier, Kelly Leach, Stephen Blaney, Aaron O'Toole, Michael Chung, Brad Trust et Lisa Raitt ont donc pu se lever à tour de rôle aux communes après Andrew Scheer pour projeter l'image d'un parti uni qui parle d'une seule voix sur des enjeux comme les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis, la taxe sur le carbone ou encore les allégations de favoritisme touchant la création de la Banque de l'infrastructure du Canada ou encore la nomination contestée de Madeleine Meyer à titre de nouvelle commissaire aux langues officielles. Et sous la plume de Mélanie Marquis, cette fois dans le fil de la presse canadienne, on a un autre article de contenu semblable. Andrew Scheer brise la glace aux communes, si vous voulez approfondir. La glace est brisée. Le nouveau chef des troupes conservatrices, Andrew Scheer, a lancé ses premières salves en chambre lundi 29 mai, chaudement applaudi par un caucus qui a cherché à minimiser l'influence de l'aile droite sociale, ayant contribué à l'élection du Saskatchewanais Andrew Scheer. Alors, plus de détails de la part de Mélanie Marquis dans cet article. Article de la presse canadienne. Et du fil de la presse canadienne, on va passer au portail de Radio-Canada. Le Bloc québécois veut la reconnaissance de l'État palestinien. La chef du parti Bloc québécois, Martine Ouellette, et le député Mario Beaulieu en ont fait l'annonce lundi à quelques jours du 50e anniversaire de l'occupation des territoires palestiniens, entourés de représentants de plusieurs organismes de défense des droits des Palestiniens et de promotion de la paix au Moyen-Orient. Il est de notre responsabilité de combattre l'injustice parce que cette injustice-là perdure depuis bien trop longtemps, a affirmé Martine Ouellette. Martine Ouellette a demandé au gouvernement Trudeau de reconnaître officiellement l'État palestinien en vertu du droit inaliénable à l'autodétermination des peuples. D'après le Bloc québécois, il s'agit de la meilleure voie pour la résolution du conflit israélo-palestinien puisque cette voie permettrait d'exercer une pression sur Israël. Politique québécoise, une élection partielle dans la circonscription de Gouin sur l'île de Montréal. Gabriel Nadeau-Dubois entre à l'Assemblée nationale. C'est rapporté par tous les médias localement au Québec. Je vous lis quelques passages de cet article paru dans le journal La Presse. Gabriel Nadeau-Dubois a remporté l'élection partielle dans Gouin avec une majorité écrasante de près de 70% des voix. Il reprend ainsi le flambeau de la députée sortante Françoise David et la circonscription demeure donc aux mains de ce parti Québec solidaire. Les quelques 44 000 électeurs de la circonscription de Gouin ont donc choisi la continuité, écrit le journal La Presse. L'élection complémentaire visait à remplacer la cofondatrice de Québec solidaire, Françoise David, qui a démissionné en janvier pour des raisons de santé. Françoise David représentait cette circonscription à l'Assemblée nationale depuis 2012 et elle a elle-même choisi Gabriel Nadeau-Dubois comme son successeur. Et rappelons que Gabriel Nadeau-Dubois était l'un des principaux leaders étudiants lors de la crise étudiante qui a bouleversé le paysage politique au printemps de l'année 2012, une crise que l'on a appelée aussi le printemps érable. Donc vous trouverez cette nouvelle dans tous les médias québécois. Gabriel Nadeau-Dubois entre à l'Assemblée nationale. L'heure des choix est arrivée en Nouvelle-Écosse, nous indique Radio-Canada. Après une brève campagne de 30 jours, les néo-écossais sont appelés aujourd'hui, 30 mai, à élire leur nouveau gouvernement provincial. Les libéraux de Stephen McNeill, le premier ministre sortant, espèrent obtenir un deuxième mandat majoritaire, ce qu'aucun parti n'a obtenu depuis près de 30 ans en Nouvelle-Écosse. Dimanche, un nombre record de 113 000 électeurs se sont déplacés pour voter par anticipation, note Radio-Canada dans cet article. Lundi, les chefs des principaux partis se sont rendus dans diverses communautés clés de la province pour tenter de rallier les derniers indécis. Stephen McNeill promet d'injecter 34 millions de dollars en santé, ainsi que 45 millions de dollars sur 4 ans pour la création d'emplois pour les jeunes diplômés. Pour sa part, le chef des progressistes conservateurs, Jamie Bailey, promet une baisse d'impôts, des investissements dans la santé et pour créer des emplois, et plus de 2 milliards de dollars en dépenses d'infrastructures sur une période de 10 ans. Le camp du néo-démocrate Gary Burrill soutient qu'il souhaite augmenter le salaire minimum à 15 dollars de l'heure. Il maintient aussi qu'un déficit budgétaire temporaire permettrait de combler les lacunes du système d'assurance maladie de la province. Hebdomadaire L'Actualité, on nous fait part d'une nouvelle thématique environnementale des caribous embarrassants. Le déménagement prévu de 18 caribous de Val-d'Or vers le zoo sauvage de Saint-Félicien au Québec soulève les passions. Vous trouverez cet article dans le portail l'actualité.com. D'un côté, les écologistes pour qui ce déménagement est une hérésie. De l'autre, les tenants du développement économique qui y voient la solution pour protéger des animaux en danger. Et finalement, un bel article dans le portail Ricochet, un portail indépendant, anglophone et francophone. Côté francophone, c'est un article qui s'intitule Pourquoi ralentir? C'est sur la frénésie moderne du travail, le métro-boulot-dodo, les journées très remplies, trop remplies, qu'impose notre rythme de vie moderne. C'est sous la plume de Josiane Desjardins, travailler pour faire plus d'argent, pour consommer plus. Et si d'autres choix étaient possibles pour plus de bonheur, je vous recommande cet article qui paraît sur le portail ricochet.media. Et c'est avec cet article paraissant sur le portail Ricochet qu'on referme la revue de presse nationale des 30 et 31 mai. Le débrief vous revient dans quelques instants avec votre rubrique francophone du jour. Restez à l'écoute. Après les revues internationales et nationales, voici votre nouvelle à thématique francophone pour les 30 et 31 mai. C'est une nouvelle qui paraît dans le portail du Figaro. Francophonie, le français est-il encore une langue d'avenir? Demande Gaël Nofri. Il est conseiller municipal et métropolitain dans le sud de la France et président du groupe des élus niçois indépendants. Dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, alors que la diplomatie états-unienne semble de plus que jamais incertaine et que la Russie semble retrouver un rôle tout à fait fondamental qu'elle avait perdu avec l'effondrement du bloc soviétique, que les conflits en Syrie, au Yémen et peut-être demain en Iran s'accumule et s'enlise, et que les tensions en Asie s'accumulent tant en mer de Chine qu'en Corée du Nord, les diplomates, les politiques et les meneurs d'opinion ne cessent de parler de ponts à construire, de relations à nouer et de discussions à engager. La francophonie n'est pas, écrit l'auteur, une création néocoloniale retraçant la domination écrasante d'une population européenne sur le reste des territoires que la France a autrefois administrés. Rappelons d'abord que si le périmètre de la francophonie englobe l'essentiel des anciennes colonies françaises du 19e et du 20e siècle, elle est aussi présente dans les terres dites de la première colonisation, c'est-à-dire notamment celles des Amériques qu'elle a découvertes, peuplées et administrées. Rappelons aussi qu'au-delà, nombreux sont les pays membres de la francophonie qui n'ont jamais été des possessions françaises, mais qui ont bénéficié de l'influence de la France, de son éducation et de sa culture. Combien de peuples de par le monde doivent encore aujourd'hui leur émancipation à la part prépondérante qu'a pris la France à la formation intellectuelle de ses élites? Par ailleurs, continue l'auteur, la francophonie n'est pas un fait néocolonial car, comme l'avait voulu le général de Gaulle, elle fut d'abord vécue comme nécessaire par ceux qui avaient reçu le français en apport, plus que par ceux qui l'avaient trouvé dans leur berceau. Boutros Boutros-Ghali, l'ancien chef de l'ONU, se plaisait à dire que la francophonie était née d'un désir ressenti hors de France. Toujours est-il qu'aujourd'hui, la francophonie est, à bien des écarts, une réalité. Réalité humaine, écrit l'auteur, car le français se trouve parlé par 274 millions de locuteurs de par le monde, ce qui en fait la cinquième langue la plus parlée dans le monde, mais aussi la deuxième langue la plus apprise après l'anglais. Réalité géographique aussi, car le français est réparti sur tous les continents. Réalité politique aussi, poursuit l'auteur, car l'Organisation internationale de la francophonie regroupe aujourd'hui pas moins de 84 États. Grâce à eux, la langue française et sa culture représentent pour la France un outil formidable d'influence au service d'une diplomatie de la médiation et de l'échange, capable de créer des ponts entre les peuples. Enfin, c'est une réalité dynamique, conclut l'auteur, face à un avenir qui devrait être marqué par les grands bouleversements démographiques et notamment l'explosion du continent africain, l'espace francophone va être fortement influencé par ces évolutions en passant à près de 800 millions de locuteurs du français d'ici à 2050, soit près de 9% de la population mondiale contre seulement 3,5% présentement. Ce chiffre doit nous interpeller car il dit beaucoup des enjeux à venir. Il dit d'abord que la francophonie est naturellement portée par une dynamique, qu'elle sera demain la langue de la jeunesse, mais aussi de son développement, car nous ne pourrons faire l'impasse d'un développement économique et technologique de l'Afrique, et par là même de l'Afrique francophone. C'est un enjeu humain, politique et économique essentiel pour l'humanité, et nul ne comprendrait que la francophonie ne soit pas au premier rang de ceux qui l'ont compris. C'est aussi un enjeu en termes de sécurité, de stabilité et de gestion des flux migratoires, précise l'auteur de cette tribune. Je rappelle son nom. Il s'agit de Gaël Nofri. Francophonie, le français est-il une langue d'avenir? C'est dans le journal Le Figaro, à l'adresse lefigaro.fr. C'était votre information à thématique francophone dans cette édition des 30 et 31 mai du débrief, votre rendez-vous info quotidien. Merci de demeurer à l'écoute de votre radio communautaire francophone locale.
J'ai des idées aquatiques comme des chansons marines, des échantillonnages. Ma tête est une machine. Des idées aquatiques comme des chansons marines. J'ai des idées aquatiques comme des chansons marines où se cachent des images. Le cerveau dans l'abîme. Des idées aquatiques comme des chansons marines. Inspiration à la nage. N'attends pas. N'attends pas que je revienne. L'hiver et le gel, en tout figé, j'ai bu de l'antigel pour tout liquéfier. J'ai joué avec le temps, les mots et les sons, malgré les contretemps, malgré les saisons. La glace a cédé, tout a dégelé, j'ai rassemblé mes morceaux, éparpillé. La banque est disparue, tout a fondu, inspiration revenue. N'attends pas que je revienne.
Je néglige à toutes mes chums, mes galops. Sachez ce que le jeu exige quand il s'offre en cadeau. La terre ne tourne pas rond, aux cieux je demande pardon. En attendant, moi je suis en feu, fait que j'ai sauté à l'eau. Y'a que l'inspiration qui va me guider. Naviguer, naviguer sans retour, sans jeter l'ancre. Chaque jour est une renaissance, sortie du cœur de la mer. Mais ma mère a perdu son sens, son essence est le nerf de ma guerre.
Fallait que je vous mette au courant. Je l'ai dit à l'océan. Il m'a si bien écouté que du haut du mât, je m'y suis jeté.
N'attends pas que je revienne.
À l'instant, Lily Kao avec une pièce intitulée « N'attends pas ». C'est Alexis Gagnon en votre compagnie dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien. Et l'info, justement, se poursuit. C'est le moment de passer aux nouvelles provinciales. Voici votre revue de presse britanno-colombienne. Et bien sûr, cette revue de presse provinciale est dominée par les récents développements entourant la formation du gouvernement suite au scrutin du 9 mai. On va tout de suite se rendre dans le portail britanno-colombien de Radio-Canada. NPD et Vert s'allient pour former un gouvernement minoritaire en Colombie-Britannique. C'est une nouvelle qui est tombée en après-midi hier. J'ai eu le temps de vous la mentionner brièvement. On va explorer ça plus en profondeur. Donc c'est sous la plume ici dans le portail britanno-colombien de Radio-Canada de la journaliste Fanny Bédard, le chef du Parti Vert, Andrew Weaver, et celui du nouveau Parti démocratique de la Colombie-Britannique, John Horgan, ont annoncé qu'ils sont parvenus à une entente pour former un gouvernement minoritaire néo-démocrate. Les deux politiciens précisent que cette entente d'une durée de 4 ans sera ratifiée par les députés mardi et que les détails seront dévoilés à ce moment également. Donc au moment d'enregistrer cette émission, les détails de l'entente ne sont pas connus. L'article poursuit en disant que les deux hommes mettent fin ainsi au suspense politique qui planait sur la province depuis près de 3 semaines à la suite d'élections historiques lors desquelles les Britanno-Colombiens ont élu 43 députés libéraux, 41 députés néo-démocrates et 3 députés verts. Pour obtenir une majorité, un parti aurait dû faire élire 44 députés à l'Assemblée législative. Ce sera très différent, a lancé d'entrée de jeu Andrew Weaver, le chef du Parti vert, lors de cette point de presse donnée hier en compagnie du chef du Parti néo-démocrate John Horgan. Le chef vert, poursuit la journaliste de Radio-Canada, a tenu à répéter que les négociations avaient été très difficiles et que lui et son parti avaient travaillé avec les deux formations politiques pour en arriver à des compromis satisfaisants. Le chef du Parti vert a aussi dit vouloir éviter aux Britanno-Colombiens de retourner aux urnes sitôt après des élections générales. Et Weaver a insisté sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un gouvernement de coalition. « Nous avons spécifiquement demandé à ce que ce ne soit pas une coalition », a expliqué Andrew Weaver. Alors, 3 dossiers sont prioritaires de l'avis du Parti vert, donc qui a le pouvoir de levier, le pouvoir d'arbitre, si vous voulez. Alors, ces 3 dossiers sont la réforme du mode de scrutin, la réforme du financement politique et la reconnaissance du Parti vert comme parti politique officiel à l'Assemblée législative. Le Parti vert s'oppose aussi à l'expansion du pipeline Trans Mountain de Kinder Morgan entre l'Alberta et la Colombie-Britannique. Et cet article en substance confirme que Christy Clark ne sera plus première ministre. Celle-ci a réagi peu de temps après l'annonce des deux chefs par voie de communiqué. Dans les derniers jours, a-t-elle déclaré, nous avons fait tous les efforts possibles pour conclure une entente tout en défendant fermement nos convictions profondes. Il est d'une importance vitale que les Britanno-Colombiens voient les détails de cette entente annoncée aujourd'hui par les chefs du NPD et du Parti vert, qui pourrait, entente qui pourrait avoir des conséquences d'une grande portée pour l'avenir de notre province. Donc la fin de l'ère libérale est bien réelle, comme l'ont souligné plusieurs médias, et notamment de Taï, notre portail média indépendant ici sur l'île de Vancouver. Donc si vous voulez approfondir cet article de Radio-Canada, c'est intitulé « NPD et Vert s'allient pour former un gouvernement minoritaire en Colombie-Britannique ». Et il y a aussi cet article du Devoir que je vous recommande. En Colombie-Britannique, le NPD compte sur les Verts pour gouverner. L'Alliance devrait chasser les libéraux du pouvoir à court terme. Analyse d'Hélène Buzetti, qui est normalement correspondante parlementaire à Ottawa. Pour un auditoire plus international, un article qui revient vraiment sur les éléments fondamentaux entourant cette nouvelle composition du pouvoir en Colombie-Britannique, vous trouverez un papier intitulé « Les électeurs retourneront-ils aux urnes ou auront-ils un gouvernement minoritaire ?» C'est un article qui paraît dans le portail de Radio-Canada International, rcinet.ca. C'est par Maryse Jobin. Après l'alliance entre le NPD et le Parti vert en Colombie-Britannique, que fera la première ministre libérale sortante, Christy Clark, qui n'a pas obtenu assez de sièges pour former un gouvernement? Et cet article du portail de Radio-Canada International soulève une possibilité intéressante, celle que Christy Clark, donc la première ministre sortante, indique à la lieutenant-gouverneure de la Colombie-Britannique qu'elle présentera un discours du trône dans l'espoir qu'un député vert s'y rallie. Donc, un seul vote, on le rappelle, sépare les libéraux d'une majorité dans la Chambre législative de la Colombie-Britannique. Alors, on attend de voir ce que décidera Christy Clark. Elle pourrait tenter de présenter un discours du trône et obtenir ainsi la confiance si un membre des Verts se ralliait à sa formation politique. C'est une hypothèse que soulève cet article écrit par Maryse Jobin dans le portail rcinet.ca. Et cette alliance entre les Verts et le Parti néo-démocrate en Colombie-Britannique est une mauvaise nouvelle pour l'Alberta. Le NPD au pouvoir en Alberta a accueilli sans effusion de joie le soutien des Verts à leurs homologues néo-démocrates de la Colombie-Britannique, pendant que l'opposition n'y voit que du négatif. C'est clair que ce ne sera pas bon pour l'Alberta, a lancé d'emblée le député de l'opposition officielle du Wild Rose, Nathan Cooper. Bon, évidemment, là, vous avez la position albertaine qui favorise le transport accru du pétrole vers la côte ouest, dossier sur lequel s'opposent, bien sûr, les formations néo-démocrates britanno-colombiennes et néo-démocrates albertaines. Le point de vue est différent de part et d'autre. Il y a de fortes divergences. Ce qui fait dire tant aux néo-démocrates albertains qu'à l'opposition Wild Rose que la nouvelle d'hier, donc cette nouvelle de coalition ou de collaboration plutôt entre les Verts de Weaver et les NPD de Oregon n'est pas une bonne nouvelle. Et dans le TAI, le portail que je mentionnais un petit peu plus tôt, il y a quelques instants, « Three ways BC could stop Kinder Morgan's Trans Mountain Pipeline plan ». Trois façons que pourrait employer la Colombie-Britannique pour stopper le pipeline Trans Mountain. C'est sous la plume du journaliste James Wilt. Alors, la première façon, pour rester dans le sujet des pipelines, c'est une étude environnementale. Le gouvernement britanno-colombien pourrait commander une étude environnementale, indique cet article. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, le gouvernement pourrait proposer un projet de loi à l'Assemblée législative, surtout avec cette fameuse collaboration entre les Verts et le NPD. Et troisièmement, la troisième façon que pourrait utiliser la Colombie-Britannique pour stopper l'expansion du pipeline Trans Mountain, ce serait d'attendre que les contestations judiciaires suivent leur cours. Donc, attendre que les contestations judiciaires aillent jusqu'à leur terme, parce qu'il y a plusieurs contestations actuellement devant les tribunaux. On rappelle cet article du portail de TAI. Je vous rappelle le titre, « Three ways BC could stop Kinder Morgan's Trans Mountain Pipeline plan ». Et le sous-titre, « En dépit des affirmations de Rachel Notley, la première ministre albertaine, le nouveau gouvernement provincial en Colombie-Britannique pourrait quand même arrêter ce projet d'expansion ». On laisse de côté le dossier électoral pour aborder d'autres sujets. La crise sanitaire en Colombie-Britannique entourant les surdoses se poursuit, évidemment. Surdose d'une élève de 16 ans, une aide psychologique à l'école Power Alternate. C'est dans le portail britanno-colombien de Radio-Canada. Une aide psychologique a été offerte aux élèves de l'école secondaire Power Alternate de New Westminster en Colombie-Britannique lundi matin après la mort par surdose d'une élève de 16 ans vendredi dernier. Une autre jeune fille qui avait consommé de la drogue achetée dans la rue en compagnie de la victime est toujours à l'hôpital. C'est un moment très difficile pour les élèves et les familles qui connaissaient les jeunes filles, a déclaré le directeur de la commission scolaire de New Westminster. Nous sommes de tout cœur avec eux. Power Alternate est une petite école qui compte seulement 66 élèves, a précisé le directeur. Donc vous trouverez cette nouvelle dans le portail de Radio-Canada, Colombie-Britannique. Dans ce même portail, une mise au point, une mise à jour de la situation des inondations ou des niveaux d'eau plutôt dans l'intérieur de la province. Le lac Okanagan atteint des niveaux historiques. Les résidents du centre de la Colombie-Britannique continuent de surveiller avec appréhension le lac Okanagan, dont le niveau dépasse celui de 1948 quand la région avait connu des inondations historiques. Selon le centre de gestion des urgences du centre de l'Okanagan, l'eau du lac avait atteint 343 mètres dimanche matin. Le centre de gestion des urgences du centre de l'Okanagan s'attend à ce que le débit de l'eau du ruisseau Mission Creek augmente de manière importante dans les prochains jours parce que la température continue à faire fondre la neige dans la région. C'est un cauchemar, a lancé Maria Zebeda, une résidente de Kelowna qui vit aux abords du ruisseau et chez qui l'eau a commencé à s'infiltrer dans le sous-sol il y a quelques jours. C'est véritablement stressant pour tout le monde, a-t-elle ajouté. Cette actualité paraît dans le portail de Radio-Canada Colombie-Britannique. Dans ce même portail, un feu de forêt menace des résidences de Lillooet. Deux maisons ont été placées sous alerte d'évacuation à l'est de Lillooet en Colombie-Britannique en raison de feux de forêt. Les flammes ont été repérées dimanche sur la rive est du fleuve Fraser à 8 km de Lillooet et lundi, elles couvraient 90 000 mètres carrés. Le feu continue de se propager, autant au sol qu'au sommet des arbres, écrit Radio-Canada dans cet article. Une équipe de 5 pompiers, un avion citerne, des hélicoptères et le département d'incendie de la Première Nation de la région ont été déployés. Et plus localement maintenant dans la région du Grand Victoria, Check News, un portail indépendant, nous signale que la piscine Crystal sur Quadra a été évacuée en raison d'un incendie dans le sauna. Ça s'est produit en début de semaine. Près de 20 pompiers ont été appelés sur les lieux, rapporte Check News, et le feu a pu être maîtrisé quelque temps après. Et vers 17h, la ville de Victoria a annoncé que l'installation avait pu rouvrir ses portes. Aucune blessure n'a été déplorée. Et pour refermer cette revue de presse provinciale, un article qui paraît dans le Journal de Montréal sous la plume du chroniqueur Jacques Doucet, qui nous signale une première qui est vraiment remarquée partout au pays. Ça concerne le baseball. Je vous lis quelques lignes de cette petite dépêche intitulée justement « Une pionnière ». C'est à la suggestion d'André Lachance, le gérant de l'équipe nationale féminine de baseball du Canada, qu'une jeune femme se trouve au sein d'un club masculin. À 19 ans, Claire Eccles, originaire de Surrey, en Colombie-Britannique, est devenue la première femme à jouer dans la Ligue de développement de West Coast, un circuit masculin qui regroupe les meilleurs espoirs universitaires. Le gérant Brad Norris-Jones des Harbour Cats de Victoria a retenu les services d'Eccles comme lanceuse. Selon André Lachance, poursuit cette dépêche, la jeune lanceuse possède un excellent répertoire de lancers, dont une balle papillon. La Ligue West Coast réunit 11 clubs canadiens et américains. Et c'est avec cette actualité sportive qu'on va compléter aujourd'hui le tour d'horizon des nouvelles provinciales de Colombie-Britannique. Mon nom est Alexis Gagnon. Vous écoutez Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9 dans la grande région de Victoria. On effectue une courte pause musicale. Au retour, on examine la météo des prochains jours sur le site d'Environnement Canada. Restez à l'écoute. Vous écoutez toujours l'émission Le Débrief, Alexis Gagnon en votre compagnie à l'antenne du 107.9 FM dans la grande région de Victoria. On s'est réveillé dans la matinée du 30 mai avec une température maussade. Est-ce que c'est la fin de la séquence de beau temps qu'on a eue au cours des derniers jours et qui a contribué au succès du Festival de la francophonie de Victoria durant le week-end? C'est ce qu'on va vérifier sur le portail d'Environnement Canada à l'adresse météo.gc.ca immédiatement. Pour ceux qui nous écoutent en fin d'après-midi dans la journée du 30 mai, c'est 13 degrés environ à l'aéroport de Victoria, maussade avec une pluie faible. En soirée, ça reste semblable, 60% de probabilité d'averse, un maximum de 10 degrés. Demain, on a tout de même un pictogramme où l'on voit un soleil avec des nuages, donc généralement nuageux avec des percées de soleil, si je comprends bien. Maximum de 18 degrés, nous indique le portail d'Environnement Canada. Ça sera plus nuageux en fin de journée et au cours de la soirée, le maximum sera de 11 degrés. Sur la plus longue durée, pour le 1er, le 2 et le 3 juin, on a de la pluie. Pour les 1er et 2 juin, maximum de 16 et 17 degrés respectivement. Les probabilités d'averse seront assez prononcées jeudi 1er juin avec 60%. Elles chuteront à 30% pour la journée de vendredi 2 juin. Et pour le week-end qui est encore très loin, Environnement Canada pronostique du soleil, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 18 degrés. Et encore plus loin pour la journée du dimanche 4 juin, 18 degrés, encore une fois, avec une alternance de soleil et de nuages. Donc, on n'est pas lancé sur une longue séquence de pluie, de météo maussade. On aura un peu de tout au cours des prochains jours. Je vous encourage à consulter le bulletin détaillé sur météo.gc.ca. C'est ainsi que se termine l'émission du jour. Merci de l'avoir suivi à l'antenne du 107.9 FM, votre fréquence communautaire francophone dans la grande région de Victoria. C'est Alexis Gagnon au micro. Je vous dis à demain, même heure, même fréquence.
Vous écoutez CILS FM 107.9 à Victoria.
Bonjour.
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 Je m'appelle Tuva et on fait partie des nouveaux reporters.
Écoutez les nouveaux reporters sur CILS FM, l'émission réalisée par les étudiants des écoles francophones et d'immersion de la Colombie-Britannique avec leur coup de cœur.
Pourquoi aimes-tu les Blue Jays de Toronto si tu vis en Colombie-Britannique?
Et des interviews.
Tu parlais à propos des manques de volontaires. Que fais-tu pour dépasser ces obstacles?
Très très bonne question.
Les nouveaux reporters, c'est vendredi et samedi à 18h sur CILS FM 107,9.
demande parfois de te parler d'elle. Et je te raconte qu'elle est toujours aussi belle. J'ai des papillons jusqu'au bout des doigts. Quand elle et moi, on s'allonge amoureux. Et que le ciel chatouille nos yeux de ses bleus. Je veux hurler sur tous les doigts. Que la vie, ça se danse. Sous la pluie, même le dimanche. Oui, la vie, ça se chante. Sous la lune qui embrase mes nuits blanches. Même si elle n'est pas toujours teintée de rose et qu'elle ne me parle pas toujours en prose, les papillons volent autour de moi. Même si je sais que ce n'est pas pour toujours, je m'en fous, je vis au jour le jour. Je hurle, je crie sur tous les toits. Que la vie, ça se danse. Sous la pluie, même le dimanche. Et la vie, ça se chante. Sous la lune qui embrase mes nuits blanches.
Je sais que l'amour vous par cœur. De nous en électrochoc. Si seul est un cœur menteur, non, notre histoire n'est pas morte. Et puis un jour c'est arrivé, comme si on avait rendez-vous. T'as dit mon cœur va exploser. Je crois qu'il se souvient de nous. Puis tu t'es jeté dans mes bras. Fini le temps des automates. On tiendra bon, on retrouvera le tempo de nos cœurs qui battent. Ta-la-la-la-la-la-la.
CILSFM, la voix de votre communauté.
Vous écoutez CILSFM.
Allô la planète avec Eric Lange.
Et c'est reparti numéro 152 d'Allô la planète. Tout va bien, monsieur, dame. Pour nous joindre, un message sur la page Facebook d'Allô la planète ou via le blog. Nous serons tout à l'heure avec Gilin Bardou. Under the Pole, c'est un monsieur depuis 8 ans, il va plonger sous les glaces. Sous les glaciers, ouais, il fait ça. Et là, il est sur le départ pour une nouvelle expédition. Jenna et Jérémy, où sont-ils? Jenna et Jérémy, je sais pas. Ils ont été en Italie il y a pas longtemps. Là. Ah oui, voilà, c'est ça, aux Cinque Terres, un endroit merveilleux qu'on connaît pas. Et puis Amélie et Amandine reviennent tout juste.
Allô la planète, avec Chapka.
C'est Amélie et Amandine qui est là, ou les deux peut-être, je sais pas. Allô?
Allô?
Oui, allô?
Oui, il y a les deux. Ah, vous êtes là toutes les deux, tout va bien?
Oui, ça va, merci.
Vous venez de rentrer?
Oui, on est rentré le 16 mai.
Oh là là, ça va, vous vous remettez?
C'est un peu bizarre, on se sent un peu comme des extraterrestres dans un nouveau pays. Du coup, on atterrit tout doucement, mais on prend le temps.
Ah, c'est vrai, vous vous sentez plus chez vous?
C'est un peu ça. On n'a plus l'habitude d'aller faire les courses, on se sent paumé dans les supermarchés. c'est tout un nouveau mode de vie à réapprendre, en fait. C'est un peu ça, cette impression-là que ça donne.
Vous êtes parti combien de temps en tout, là ?
8 mois.
8 mois. T'as vu, 8 mois, ça suffit pour perdre pied.
Oui. Mais ça fait du bien de perdre pied.
Mais oui, bien sûr. Je ne sais pas si c'est le temps ou le fait. Parce que vous êtes allé dans beaucoup de pays en 8 mois, vous avez fait une sacrée balade, hein.
Oui, une sacrée balade. On est parti vers du coup la Russie, Mongolie, Chine, ensuite l'Asie du Sud-Est, Australie, Nouvelle-Zélande et puis l'Amérique du Sud.
Voilà, vous aviez un billet tour du monde.
Oui, c'est ça.
Alors c'est bien ce billet tour du monde, je demande à...